Merci François Angelier. Rappelons que les fictions de France Culture sont réécoutables pendant une durée de 1000 jours sur le site de la chaîne. Vous écoutez France Culture. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous faire faire une nouvelle promenade du côté de la mort. Kenneth Anger, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Voilà, c'est fini pour la saison, c'est l'ADER, alors on rallume, on démonte, on balaye. Mais avant de laisser la clé sous la porte, quelques recommandations pour bronzer pervers et se détendre en mauvaise compagnie. Bronzer, se détendre avec Akira, en fin d'édition définitive, merci à Glénat. La Midnight Collection de chez Carlotta, du gros cinéma qui tâche. Panique à Needle Park, du grand cinéma qui pique. Spetters de Verhoeven, du gras cinéma qui poisse. Beach Planet chez Glénat, Tarantino Goes Comics. Les éditions FLB, du roman jeunesse japonais. Ligne de fuite de Robert Stone, où quand les chiens de l'enfer dansent autour de l'olivier. Retour à Babylone de Kenneth Anger, que Tristram était mon âme, à l'enterrement de James Dean. Et si avec tout ça, vous ne l'évitez pas, alors je mange mon Bob. De bien mauvaises vacances à tous. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre qui clôt là sa 19e saison et on n'est pas sérieux quand on a 19 ans. La preuve en est avec cette soirée où l'émission ne fait qu'une heure puisque je sors du Nautilus pour vous retrouver et où nous n'avons jamais été aussi nombreux autour du plateau. Je salue donc pour cette dernière émission de la saison et avant le grand départ, Céline Duchesnay.
Bonsoir François.
Comment va-t-elle ?
Elle va fort bien.
Sixtine Audebert.
Bonsoir François.
Qui a réussi son année scolaire.
Oui, François.
Voilà, très bien. Bravo. Élise Lépine.
Bonsoir, François.
Qui n'a plus d'année scolaire en cours, je crois.
Malheureusement, non.
Voilà, mais qui se prépare à faire sa rentrée littéraire. Philippe Rouillet.
Bonsoir.
Quoi de neuf, Philippe Rouillet ?
Une leçon de cinéma, le 8 juillet.
Ah, où ça ?
Filmer la peau.
Filmer la peau,
au Forum des images.
Le film de Liliana Cavani, bien sûr.
Érotiser la peau.
Érotiser la peau. Venez nombreux. Jean-Pierre Dionnet.
Bonjour François Angelier.
Comment va-t-il Jean-Pierre Dionnet ?
Eh bien, bah, il va comme un samedi. Hein.
Ça veut dire
un samedi avec mauvais genre Jean-Pierre, voilà, c'est un bon samedi.
C'est des grands samedis.
C'est un bon samedi et surtout, moi je suis assez d'accord, il faut que vous teniez compte de tout ça, vous partez en vacances avec ce qu'on va vous dire.
Voilà.
Et au retour, vous vous plaignez ou vous dites, super, j'ai passé un été merveilleux grâce à vous.
Voilà, c'est merveilleux. N'hésitez pas à nous envoyer des mails de félicitations. Et on termine avec Arnaud Gonzague, bonsoir.
Bonsoir François.
Arnaud Gonzague, donc du Nouvel Observateur.
Oui. Enfin, on dit l'Obs notre... quand même maintenant, ça fait un moment.
On dit l'Obs, vous savez, je pèse mon poids d'année. Donc de l'Obs, Arnaud Gonzague, on va parler de Kenneth Anger, tout va bien pour vous.
Voilà,
vous êtes notre partenaire média, comme on dit chez
tout
les
à fait.
Gens sérieux. On va passer maintenant, sans plus tarder, aux gens moins sérieux, avec bien sûr Céline Duchesnay.
Oh,
Voilà, la playlist de l'été, la seule, la vraie, l'unique, celle de Laurent Polleret, qui commence avec les Beverly Sisters, Sphinx Dontel, comme à son habitude. Et on ouvre le feu avec vous, Céline Duchesnay. De quoi est-ce que vous allez remplir nos filets de plage et nos sacs de vacanciers?
Eh bien, de la chose.
De la chose. Alors, avec la peau, elle a la chose.
La chose, en fait, est une revue qui est entièrement consacrée à la chose, à savoir le sexe. Une revue qui veut trouver sa place très exactement, nous dit-on dans l'édito, entre les magazines de routiers et les publications pour initiés.
C'est pour nous, ça.
Donc, une revue où le sexe est rigolo et intello, je cite toujours l'édito, exigeant et patient, pop et corne, d'où le sous-titre revue pop corn. Non, pardon, pop porn. Donc, en couverture, on reconnaît la célèbre affiche de propagande américaine de 43, le We Can Do It de Howard Miller, donc femme en bleu de travail, fichu à pois blanc sur la tête, manches remontées, bras musclés, sauf que cette fois-ci, la femme représentée est une poupée gonflable, bouche largement ouverte comme chacun le sait, et que plutôt que de bander son muscle aux yeux de tous, la créature fait clairement un bras d'honneur. Donc après Beyoncé qui avait repris le We Can Do It, Pink ou alors même Hillary Clinton, voilà, nous avons donc une nouvelle image de la femme militante, et c'est donc bien la chose. Donc à l'initiative de ce projet, trois personnes, Jocelyn Borda et Anaïs Carayon du magazine Brain, et Camille Emmanuel qui est l'auteur entre autres de Sex Powerment, le sexe libère la femme et l'homme, un essai largement autobiographique, féministe pro-sexe, je dirais, livre dont vraiment je vous recommande la lecture aussi pendant cet été. Et alors nous avons là 200 pages divisées en trois parties, donc 3 B, B comme boudoir, B comme bordel et B comme backroom, et qui vont nous parler évidemment du sexe sur absolument tous les tons, alternant sujets légers aux articles plus sérieux, tous les genres, on a de la BD, du récit, témoignages, reportages, enquêtes, photos, dessins, même des conseils, par exemple les phrases à ne jamais prononcer quand on fait l'amour, donc je vous les laisserai découvrir,
non,
je n'en dirai aucune parce que je ne les connais pas justement, phrases à ne jamais écrire quand on veut se lancer ou écrire son premier roman érotique, donc à éviter apparemment les métaphores, toutes les positions érotiques aussi des étoiles de mer, le vocabulaire Wikipédia, des AIQ, enfin vous avez à peu près tous les genres et vous allez vous régaler. On trouvera aussi des sujets qui ont fait les grandes heures de mauvais genre, donc évidemment un article sur le fist-fucking avec le livre de Marco Vidal.
C'est encore podcastable, profitez-en.
Voilà, que nous avons reçu dans ce studio. Un article aussi sur comment choisir son pseudo d'acteur porno grâce au livre de Marianne Pavot, le discours pornographique dont on avait fait aussi écho
ici. Vous nous aviez d'ailleurs, à 12, donné un petit nom.
Est-ce que vous vous souvenez du vôtre,
mais
François?
Non,
moi je m'en souviens, vous vous appeliez Docteur Tail Chaser, le chasseur de queue. C'était votre nom. Donc on lira évidemment les articles de Marianne Pavot sur la masculinité érotique. Il y a aussi une analyse magnifique d'Agnès Giard qu'on aime beaucoup ici sur les puceaux japonais de 30 ans. Et alors, à lire aussi un article que j'ai trouvé extrêmement intéressant qui s'appelle Paul Porn, un article de Camille Emmanuel qui s'interroge sur la censure et les nouvelles obscénités. Je ne sais pas si vous savez, mais en décembre 2014, le gouvernement britannique a modifié les lois relatives aux vidéos porno produites et vendues sur le sol anglais et ont été bannis un certain nombre d'obscénités, à savoir la fessée, le fouet, le face-sitting, l'éjaculation féminine, le fist et les pratiques SM qui laisseraient des zébrures ou des bleus sur le corps humain. Donc autant de spécialités, si on peut utiliser ce terme, qui ont largement été investies en fait par le nouveau porno, celui que défendent les pornos gays, lesbiens, queer ou féministes. Et alors donc ça donne un article absolument passionnant sur ce qui est aujourd'hui obscène ou pas, selon le gouvernement britannique, ce que l'on peut montrer ou pas. Alors par exemple, la femme fontaine serait obscène, mais pas un homme en train d'éjaculer.
Le face-sitting, Christophe Beer, qui a récemment payé de sa personne,
mettant souvent en scène des femmes dominatrices avec les fesses et le sexe posé sur le visage d'un homme, ce serait obscène. Mais le face-fucking, qui est une sorte de fellation tout de même assez violente qu'on trouve très facilement sur tous les tubes porno, ça, ce ne serait pas obscène. Le fist-fucking serait obscène, alors que la double pénétration, là encore ultra représentée sur tous les sites internet, ça ne le saurait pas. Donc on voit, à la lecture de cet article, on arrive à dessiner en fait le visage de la sexualité et de la sexualité de la norme en l'occurrence, un sujet évidemment très politique car derrière cette nouvelle loi se cache une vision très hétéronormée du sexe et des règles de bienséance. Et il a d'ailleurs fait le sujet d'étude du dernier Porn Film Festival de Berlin en octobre dernier au lieu de réflexion concernant les sexualités. Mais alors quand même, la dernière chose à ne pas oublier pour cet été, c'est que ce qu'on apprend aussi dans cet article, c'est que la grande Bretagne n'est plus depuis 2014 le pays de la fessée, puisqu'on n'a plus le droit de représenter des fessées dans des films porno vidéo, alors que jusqu'à présent c'était vraiment considéré comme le pays le plus BDSM au monde, selon le réseau social FitLife, qui est le grand spécialiste de la chose.
Les traditions se perdent, Arnaud Gonzague.
Une tradition ancienne en plus, parce qu'on disait dans les bordels très parisiens, la méthode anglaise, c'était justement un peu SM, la fessée, les cannes anglaises et tout ça. On allait chercher dans les années 30, on allait chercher la méthode anglaise.
Tout fout le camp, Philippe Rouillet, sur la disparition des marbrures.
Oui, le problème, c'est que les Anglais ont toujours été forts pour la censure. Souvenez-vous des vidéos nasties des années 80.
Dont nous parlâmes.
Donc, ce qui peut être sûr, c'est que si vous recherchez tout ça, vous allez à Londres et vous allez trouver ça impeccablement au marché noir, sans aucun problème.
Monsieur Jean-Pierre,
oui,
sur
en
la
plus,
perte des traditions.
Non, mais je pense qu'il y a aussi une belle tradition nippone, avec zébrures, fessées et tout, qu'il ne faut pas oublier. Ces deux îles se ressemblent beaucoup sur un certain nombre de fantasmes, souvent nés à l'âge scolaire.
Fausto,
Fazulo. Je ne peux rien ajouter par rapport à ce qu'a dit Jean-Pierre. Effectivement, la Grande-Bretagne et le Japon partagent pas mal de perversités communes.
Sixtine, confirmez l'impression.
Je confirme.
Sur le BDSM.
Non. Je ne m'y connais pas.
Bon, très bien, ça, ok. Alors, on rappelle la revue.
Eh bien, la revue s'appelle La Chose, revue pop porn, et c'est édité aux éditions privées.
Bien noté. Les vrais humanistes auront reconnu Mika Vagno, choisi par Laurent Polleret. Les autres sont de faux vrais humanistes. On passe maintenant au moment polar. Donc, quel polar pour l'été ? L'été en pente raide avec vous, Élise Lépine. Allons-y.
Deux polars pour l'été. Le premier, c'est Patrick Delperdange, Si tous les dieux nous abandonnent, à la série noire Gallimard. Alors là, pour moi, c'est l'un des plus beaux romans de ce premier semestre 2016. Tout genre confondu d'ailleurs. On transcende la noire et la blanche. On n'est plus dans ce genre de débat. C'est un roman qui transcende les genres par sa poésie, par son verbe, par sa sensibilité. On est dans un coin de campagne perdu, alors sans doute en Belgique, puisque Patrick Delperdange est belge. En plein hiver, une jeune femme, Céline, est en fuite. Elle a subi des violences, on suppose que c'était des violences sexuelles. Elle en a commis aussi, puisqu'elle trimballe dans son sac un couteau ensanglanté. Elle est recueillie par Léopold, un vieil homme qui vit son déclin seul dans sa ferme à l'abri du monde, et ils s'attachent l'un à l'autre. Il va prendre soin d'elle, elle va prendre soin de lui. Malheureusement, ils ont des voisins, Maurice et Jocelyn, un peu inquiétants. Maurice a des chiens qui attaquent Céline. Céline se défend, elle blesse un chien, elle s'enfuit pour échapper à la vengeance de Maurice. Maurice et son frère la traquent. Elle embarque Léopold dans cette traque, et cette traque nous confronte au thème qui est au cœur du roman, la bestialité, qui est sans arrêt en prise avec l'humanité des personnages. Alors Céline est belle, elle est très belle. Ça fait des années qu'on n'a pas vu une femme aussi belle dans ce coin. Sera-t-elle violée à nouveau par ceux qui la désirent, ou trouveront-ils en eux la force de prendre soin d'elle ? Elle est une femme objet. Sera-t-elle évitée de devenir une femme vengeresse et une tueuse ? En miroir à cette tension entre l'homme et la bête, on croisera des animaux étranges. C'est une belle idée de Patrick Delperdange. On a ce chien fou qui va finir par pourrir sur un canapé. On a quatre ragondins obèses enfermés dans ces cages, dans des cages qui sont le miroir terrible de leur geôlier. Alors attention, ce n'est pas un roman métaphorique ou symbolique. Rien n'est lourd ici, rien n'est pesant. Patrick Delperdange est un poète, c'est une grande âme d'écrivain. Il est subtil, un peu désespéré. Si tous les dieux nous abandonnent est un roman poignant. C'est un livre immense qui interroge avec tendresse et avec noirceur notre condition de pauvre mortel.
Mais qu'est-ce que vous entendez par bestialité ?
Bestialité, c'est-à-dire les pulsions. Est-ce qu'ils vont céder à leurs pulsions animales ou est-ce qu'ils vont s'élever au random? C'est toute la question de ce roman qui pose la question de l'identité humaine. Est-ce qu'on finit comme des bêtes ou est-ce qu'on vit comme des hommes?
Voilà, la question de débat est ouverte. Monsieur Jean-Pierre, vous avez un point de vue?
moi, je pense que qui fait la bête fait l'homme aussi. Et j'aurais tendance à ne pas choisir entre ces deux versions du yin et du yang.
Voilà, qui fait l'ange fait la bestiole. On continue. Deuxième choix d'Élise Lépine pour cet été torride.
Torride, oui, parce qu'on change de latitude, on change de climat. On est en Afghanistan, pays où l'on peut tout acheter, même des petites filles. Hélas, à Kaboul, on retrouve des cadavres d'enfants. Elles sont nues et elles ont subi leurs noces de sang. Elles ont été achetées pour un peu de drogue, pour une poignée de billets à des familles très pauvres. Une mère, Naïd, va cependant refuser de vendre sa fille et part en croisade contre les hommes puissants qui achètent ses enfants pour les tuer. C'est aussi le cas d'Oussama Kandar qui part aussi en croisade contre ces hommes. C'est le chef de la police de Kaboul. Il est marié à une féministe qui n'est pas courant en Afghanistan. C'est un ancien grand guerrier, c'est un fiefé bagarreur qui mène son enquête avec les moyens du bord. Alors on a de belles scènes de bricolage inspirées par les experts, c'est un peu les experts à Kaboul. C'est une enquête compliquée aussi par le chaos et par la corruption qui règne dans le pays. À des milliers de kilomètres de là, à Paris, Nicole Laguna, ancien agent de la DGSE, voit sa famille enlevée par la mafia italienne. Elle doit retrouver l'inventeur d'une drogue très puissante qui menace de déferler sur le monde si elle ne veut pas voir cette mafia assassiner son mari et ses enfants de manière atroce. Alors évidemment, les deux affaires sont liées. Je ne vous dirai pas comment, puisque c'était un vrai page-turner, une plongée en apnée dans un Afghanistan méconnu que Cédric Banel, cet auteur, connaît
alors,
très
voilà,
bien.
Oui, parlons de l'auteur.
Voilà, l'auteur a écrit déjà plusieurs romans sur l'Afghanistan et c'est un spécialiste de l'Afghanistan. Donc il nous révèle des choses sur sa perception de la société afghane que finalement nous on voit à travers le filtre des médias. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus poussé, beaucoup plus fouillé. Donc l'Afghanistan, un pays qui se débat entre tradition et modernité, qui est rongé par la drogue, par la violence, par l'impunité aussi des hommes violents, mais où fleurissent de belles âmes et de grands projets pour l'avenir. Alors Page Turner, comme je vous le disais, un roman d'aventure palpitant, mais c'est aussi une enquête fine et sensible sur la société afghane. L'aspect documentaire du roman est très bien servi par sa qualité littéraire et par la qualité du récit écrit par Cédric Banel. On est vraiment transporté en Afghanistan. On apprend des choses qu'on ne connaissait pas. C'est nuancé, c'est subtil, c'est intelligent. Une grande et belle histoire à emporter en vacances.
Par rapport à l'Afghanistan de Dewa.
Alors par rapport à l'Afghanistan de Dewa, justement, j'y ai beaucoup pensé parce que j'aime beaucoup Dewa. Alors on est moins, alors Dewa, on est vraiment dans quelque chose de très martial. C'est ces cerveaux
qui sont entre les camps.
Et là, on est plus dans le quotidien des gens avec ce commissaire qui est très intéressant puisque sa femme est féministe et lui, bon, il est féministe aussi puisqu'il
le commissaire afghan féministe, celui-là.
Ah bah, oui, parce que sa femme le pousse, elle le pousse justement à changer, à évoluer. Et c'est ça qui est intéressant. On est vraiment face à des gens qui vivent au quotidien à Kaboul et qui évoluent avec les mœurs du temps et les mentalités. C'est ça qui est bien.
Alors, on peut dire quelques mots peut-être de la collection aussi.
C'est la collection La Bête Noire de
Nouvelle.
Robert
Laffont. Alors, La Bête Noire. Alors, quel est un peu le concept de la collection?
Alors, le concept de la collection, c'est des thrillers qui sont un peu du monde entier. Ils avaient publié Maestra, notamment de Lisa Hilton, qui m'avait beaucoup intéressée, un thriller érotique cet hiver, qui était pas mal du tout. Ils vont chercher des auteurs comme ça. Alors c'est aussi vraiment des page-turners. Hein. On est dans du thriller de bonne facture. Et il y a des très bonnes choses qui sortent à La Bête Noire chez Robert Laffont. Donc une collection à suivre.
Très bien, ben nous suivrons. Merci Élise. Voilà, après ces propositions pornographiques et noires, signées donc Céline Duchesne et Élise Lépine, on passe au DVD avec vous, Monsieur Philippe. Et alors, de nouveau, grâce à Carlotta, hein, ressorti collector hors ligne, ben, Panic à Needle Park.
Voilà, c'est dans leur collection où ils nous avaient régalé avec Body Double et L'Année Dragon, c'est-à-dire un combo Blu-ray DVD, et puis un livre magnifique, cartonné, 200 pages, avec là une mine d'informations, à la fois des articles de l'époque, le dossier de presse, des interviews, un portfolio sublime. On rappelle que Jerry Schatzberg, donc le réalisateur de Panic à Needle Park, était quand même un photographe.
Ouais.
Donc son premier film, Portrait d'une enfant déchue, que Carlotta avait édité précédemment avec Faye Dunaway, était une sorte de chose autobiographique, enfin à partir de modèles qu'il avait connus. Là, Panic à Needle Park, c'est ce coin, le parc de l'Aiguille. Donc c'est à l'angle de Broadway et de la 72e rue, cet endroit où il y a possibilité de se ravitailler en drogue dure sans aller jusqu'à Harlem. Et donc on y vit. On y vit une communauté de drogués, prostituées. Il y avait eu un reportage dans Life qui a très intéressé Jerry Schatzberg, qui après a décidé du coup d'en faire un film. Et il a été en immersion dans le coin. Il a emmené Al Pacino, qui à l'époque est pas connu du tout. Il l'a repéré au théâtre. Le producteur, qui est Zanuck, parce que c'est un film de la Fox, lui dit « Tiens, il y a une fille qui s'appelle Kitty Wynne que j'ai repérée dans la scène théâtrale off. Tu devrais aller voir. » Et effectivement, ça marche, et donc tous les trois vont un peu découvrir comment ça fonctionne, au point de se faire accepté par ce milieu. Donc la plupart des acteurs du film sont des acteurs, mais à part les deux rôles principaux qui ont eu quand même lié avec la drogue, soit qui étaient en période de désintoxication, soit qui ont bien connu, donc on avait tout ce qu'il faut comme consultant technique sur le plateau, avec cette idée de confier la photo et la lumière à Adam Hollander, qui avait fait Macadam Cowboy et qui avait fait Portrait d'une enfant déchue, le premier film de Schatzberg, de tourner en très longue focale. Très longue focale, ça veut dire que la caméra est très loin. Et du coup, le décor est très écrasé. C'est un cinéma de personnages. L'idée de Schatzberg, c'était de dire comme si on les filmait avec une caméra volée, avec une caméra cachée. Et du coup, ça donne un côté réalité. Et puis ils évoluent au milieu des drogués sans que les gens soient gênés par la caméra. En même temps, il y a un certain nombre de gros plans pour rappeler l'enfermement. Et ce qui est beau, c'est que au-delà du sujet, et c'est toujours très dur, un film avec des gens qui se piquent, etc. C'est avant tout une rencontre amoureuse, et le film est à la tonalité de ça. Et ce qui donne ce côté lumineux dans ce monde très noir de la drogue. Donc c'est vraiment... Là, ils ont fait évidemment un nouveau master, parce que le film existait déjà. Les bonus ont été repris de la précédente édition, mais c'est le jour et la nuit, si je peux dire. Tout le travail très fin d'Adam Hollander, où de temps en temps, Al Pacino est dans l'obscurité ou pas, etc. Tout est de nouveau visible. C'est comme quand on l'a vu à sa sortie en 71.
The intersection at Broadway and 72nd Street on New York's West Side is officially known as Sherman Square. It's called Needle Park. It is here in the neighborhood of Needle Park that drug addicts live and steal and hustle and somehow manage to exist from one day to the next. And it's here that Bobby and Helen find each other.
Oh, sometimes I think, well, I had done such and such, or I hadn't done such and such, that I never would have met Bobby. But that's not the point, is it? I mean, I would have met Bobby. Always. Some Bobby or another. I was looking for him. I don't know if you understand what I mean, but Bobby made me feel necessary, safe.
Hey, how's it feeling to steal something?
$12.
Voilà le trailer de Panic à Needle Park, Jean-Pierre Dionnet.
Alors, disons qu'on peut dire qu'il y a deux Schatzberg déjà quand il est photographe. Il y a le photographe de mode et il y a le photographe de la rue, celui qui va devenir le copain de Dylan. Et on peut dire qu'avec Portrait d'un enfant déchu, On est dans son côté un peu sophistiqué. Ça commence sur Christina's World, le tableau d'Andrewis, qui reprend exactement avec Faye Dunaway, avec qui il sort à l'époque. Il mettra du temps à s'en séparer parce que Faye Dunaway, quand elle prend l'homme en main, il s'en va pas quand il veut.
Bah on n'a pas forcément envie de s'en aller, Jean-Pierre.
Apparemment, moi je le connaissais bien à l'époque, lui avait très envie de s'en aller, comme tous les amants de Faye Dunaway, quelqu'un de très exigeant.
Il y avait des marbrures.
Simplement, c'est quelqu'un qui a des caprices. Voilà. Mais vous me déviez de mon sujet. Ouais, il va revenir à ce côté pictural, ensuite avec l'épouvantail. Et il va revenir au côté rue, avec la rue, plus tard. Donc, en fait, il y a deux Schatzberg. Il y en a un qui est vraiment dans le pictural, dans le sophistiqué, et il y en a un qui est dans le quotidien. Et il est assez rare de voir un metteur en scène être aussi bon dans les deux genres. C'est-à-dire que si on ne dit pas que c'est le même metteur en scène, personne ne pensera que l'épouvantail, avec tout à coup son lyrisme, c'est le même metteur en scène que Panic at Needle Park.
Qui a aussi son lyrisme et un sens de l'ellipse absolument extraordinaire.
Alors, il y a ce sens d'ellipse.
Leçon de cinéma en permanence.
Alors, ce qu'il a, et avec Gene Hackman dans l'épouvantail, on le retrouve, c'est qu'il prend des jeunes comédiens et à la fois, il les lance et en même temps, il les protège. C'est-à-dire qu'ils sont justes, ils sont parfaits, ils sont dans le tempo. Bon, Pacino a expliqué que là-dessus, il était rentré dans la bande de Needle Park. Donc, en fin de compte, il s'est alimenté en les fréquentant. Et il s'est mis dans le mimétisme. Mais c'est vrai que c'est aussi, tout simplement, une version un peu picouse de Love Story. Il y a un côté très touchant, très émouvant.
Picou Story, Fausto Fazulo.
Oui, c'est ça. Peut-être un mot sur la performance de Pacino qui, effectivement, a failli ne pas interpréter le rôle, hein, puisqu'il avait été jugé trop vieux, en fait. Ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont sa façon de jouer, en fait, fusionne avec le personnage. Puisque le style de Pacino, c'est effectivement d'occuper tout l'espace, d'être constamment en mouvement, de triturer des objets, tout ça, etc. Et finalement, ça colle parfaitement à ce qu'est le personnage, qui est une espèce d'électron libre, comme ça, pas évident à cerner. C'est un personnage de corrupteur, pas immédiatement aimable, hein. Il devient aimable au fur et à mesure qu'il construit sa relation avec Kitty Wynne. Et je trouve ça assez passionnant, en fait, de voir que sa façon de jouer, en fait, a littéralement épousé de manière organique le personnage qu'il incarne à l'écran.
Et c'est ce qui a décidé Coppola de le prendre pour Le Parrain, qui fait juste après. Et c'est Kitty Wynne qui a eu le prix d'interprétation à Cannes en 71.
On passe au deuxième sujet DVD. Alors là, retour aux années VHS avec le gros cinéma qui tâche. Midnight Collection.
Alors, la Midnight Collection, alors, c'est très intéressant. C'est Carlotta aussi qui décide de sortir vraiment des grands succès de location VHS des années 80 en Blu-ray. Alors, c'est le grand écart, c'est-à-dire qu'on offre un écran à quelque chose qu'on a toujours vu un peu cracra. Donc, il y a quatre films en juillet, il y a quatre films en août. En juillet, on a Le Droit de tuer Exterminator, on a Blue Jean Cop, Le Scorpion Rouge et Maniac Cop de Bill Lustig, dont on avait déjà amplement parlé ici dans des précédentes éditions DVD. J'ai jeté mon dévolu pour cette chronique sur Le Droit de tuer Exterminator parce que c'est pas forcément le meilleur.
Non,
mais
ça...
C'est certes peut-être le plus caractéristique de cette aventure. C'est-à-dire que ce film est étonnant, qui est une sorte de vigilante movie avec Robert Ginty. On l'a toujours connu en France dans une version expurgée. Et on nous parlait toujours du Zona américain, etc. Alors nous, on avait des VHS en VF.
Des rêves de Zona.
Et donc, du coup, on peut s'offrir la version uncut.
Alors, qu'est-ce qui manquait, monsieur Philippe?
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il manquait, par exemple, dans une formidable scène, parce que, voilà, c'est deux vétérans du Vietnam. Donc, il y a un pré-générique au Vietnam qui a été tourné en studio dans de magnifiques couleurs orangées, avec une décapitation à la machette, où on voit suivant le pointillé.
Mais la tête n'est pas totalement décapitée, elle pendouille.
C'est encore plus esthétique, François. Et là, rien qu'avec ce pré-générique, c'est 20% du budget total qui est parti. J'allais pas dire en fumée, mais en explosion. Alors après, il restait moins de sous. Et ce qui est très extraordinaire, c'est que tout est dissocié. C'est-à-dire que donc les deux reviennent du Vietnam, il y en a un qui a sauvé la vie à l'autre, et celui qui a sauvé la vie va se faire casser la figure par des sales petits marlous en bande Dana, et l'autre, du coup, cesse d'être le porteur des halles pour devenir une sorte de super Charles Bronson.
Voilà.
T'as fait du mal à mon copain, donc déjà, tu vas le regretter toute ta vie.
Il y en a un qui est mangé
par
les rats.
Très bref. Et puis après, dans la foulée, je deviens l'ange de la violence. Et dès que je vois deux types qui tapent une vieille, allez, tac, des pédophiles, tac, voilà, des sénateurs corrompus, je me les fais tous. Et avec, si possible, des choses un peu... Alors, sur la fiche qui a été reprise, évidemment, sur le Blu-ray, parce qu'il s'agit de faire le culte des années 80, on voit le héros avec un lance-flamme, il n'y en a pas dans le film.
Non.
Il y en aura dans le 2, mais il y a un hachoir. Et alors, la scène du hachoir était coupée là, en France. Alors que là, voilà, le très méchant, il le passe au-dessus d'un hachoir en lui disant « Faut que tu me passes les clés pour que j'aille prendre l'argent chez toi. » L'autre, évidemment, passe les clés et il va quand même dans le hachoir.
Mais
alors, comme on n'a pas beaucoup d'argent pour faire du gore, c'est-à-dire qu'on retrouve les bonnes recettes d'Herschel Gordon Lewis, c'est-à-dire qu'on isole le gore dans des gros plans. Donc, on voit le type qui tombe dans le hachoir et après, on voit la viande hachée qui sort du hachoir avec, on voit des morceaux de vêtements.
Quel art de l'ellipse.
Voilà, et cet art de l'ellipse est aussi dans les poursuites en voiture, c'est-à-dire que manifestement, faire une vraie poursuite en voiture avec une moto et une voiture, et là, c'était compliqué, donc tout est en plan alterné. Donc, jamais les deux sont sur la même échelle. Et comme ça, il crée une espèce de dynamique. Alors, le film est très engoncé dans les années 80. On croirait une espèce de mauvais téléfilm de l'époque, avec de temps en temps des charges ultra-violentes. Et en fait, c'est uniquement l'idée des choses plus que leur réalisation qui peut avoir un certain
Fausto,
impact sur ce film.
L'idée des choses plus que la réalisation. Film conceptuel.
Moi, j'adore ce film. En vrai, j'aime beaucoup James Glickenhaus. Et, pour dire quelque chose de peut-être un peu plus gentil, je dirais que c'est quand même un film avant-gardiste, puisqu'il anticipe les débordements de la saga Injusticier dans la ville. Donc le film de Michael Winner, lui, il est daté de 1974, il était plutôt soft en termes de violence, mais il passe un cap avec son second volet en 82. Là, on est en 80 avec Exterminator. Et surtout, pour moi, c'est une espèce de chaînon manquant, en fait, entre Rolling Thunder de John Flynn et Injusticier dans la ville. C'est-à-dire qu'on retrouve cette espèce de spleen urbain, et en même temps, on a un côté cartoonesque, avec une violence décomplexé, où on est parfois dans le pur comic book à la Punisher.
Monsieur Jean-Pierre.
Alors moi je dirais que c'est...
Film trop bien ou gros nanar baveux?
Non, je pense que c'est un bon film de, j'allais dire, de vengeance gratuite. Parce que...
c'est pas gratuit.
Non, vengeance gratuite, il cherche vraiment. On a l'impression que si on laissait tomber un mégot par terre, on y aurait droit.
Ce serait bien, d'ailleurs.
Ce que je voulais dire, c'est que si vous n'aimez pas le gros bis qui tâche, il y en a un qu'il faut que vous voyez absolument, qui est un grand film d'initiation, c'est Red Scorpion.
Ouais. Qui est dans la Midnight Collection.
Il fait partie de la Midnight Collection.
Qui est dans la même collection.
C'est pour ça que tu en parles.
Qui est un film merveilleux, avec Dolph Lundgren, ancien Marines suédois. Alors, moi, j'ai vu le film, d'abord, et j'ai vu un film d'initiation avec un espèce de chaman. Il mange une chenille, ou plutôt il croit qu'il doit la manger. J'ai vu qu'il y avait des scènes de violence d'un réalisme absolu. Et puis après, j'ai lu un interview de Dolph Lundgren, l'acteur principal, donc le géant Dolph Lundgren. Eh bien d'abord, il se passe une chose, c'est que le chaman, c'était un vrai aborigène avec qui ils n'ont jamais communiqué. Ils ne parvenaient pas à communiquer avec eux. Ils ne savaient pas s'il était chaman. Mais les chamans, eux, pensaient que grand comme il était, c'était un dieu. Donc, ils le traitaient avec révérence et ils se penchaient vers lui tout le temps, etc. Et eux n'avaient jamais mangé de chenille. C'est Zito, le metteur en scène, qui lui a dit « Fais comme eux, mange une chenille ». Il en a voulu à mort.
S'est tapé des chenilles.
Le film était tourné avec de vrais mercenaires qui, le week-end, allaient tuer les terroristes. Toutes les explosions sont de vraies explosions parce que ça coûtait moins cher que c'était leur métier. Dolph Lundgren, comme il était trop grand, ne pouvait pas être doublé. Heureusement que c'est un ancien marine suédois. Donc il a pris des risques inouïs. Mais il y a dans la photo formidable de Joao Fernandez des trucs éblouissants qui sont au niveau des grands David Lean, dirais-je, dans le désert. Mais c'est parce que Joao Fernandez, c'est pas n'importe qui. C'est sous le nom de Harry Flex, non comme la caméra Harry Flex, le directeur de la photo de tous les Damiani, de la Gorge Profonde, de...
Non, les Damiano, alors pas les Damiani.
Il a fait tous les Damiano. Il a fait les plus rigoristes, les plus jansénistes, il a fait les plus colorés. C'est le plus grand directeur de la photo du cinéma pornographique. Et s'il a filmé en pornographie, il sait le faire en filmant un désert.
Donc le Scorpion Rouge, pardon. Donc
collection.
Alors puisque vous êtes lancé, Monsieur Jean-Pierre, vous allez nous dire du bien de une publication Glénat Comics, Beach Planet Extraordinary Machine, volume 1. Seule une femme peut survivre à Beach Planet, Monsieur Jean-Pierre.
Beach Planet, c'est plus qu'une tarentinerie, c'est un pamphlet féministe écrit par une grande scénariste féministe, mais qui adore les films de prison de femmes, avec lesbianisme, ultra-violence, etc. Dessiné par un noir américain qui a un dessin glacial, canadien, pardon, qui a un dessin glacial et qui a une préférence pour les héroïnes de couleur, d'ailleurs, et presque clinique. Et on se trouve dans une espèce de mélange de films de prison, de rollerball, de jeux télévisés, avec des personnages extraordinairement attachants. C'est un dessin clinique, presque à la Romain Slocombe, avec un scénario d'une grande complexité. Quand je parlais de rollerball, il se réfère au jeu du palio. Et il se réfère à la manière dont, au Moyen-Âge, on pouvait faire des jeux ultra-violents. Et là, on est face à une histoire à la fin du volume 1. On va peut-être perdre quelqu'un dans les héroïnes qui vont se rebeller contre la prison. Car elles peuvent, là-bas, à l'autre bout du monde, dans les films, on veut faire un jeu avec leur vie. Mais ces femmes sont des femmes libres. Et pour être libres, elles doivent être prêtes à tuer et à être pires que les hommes. Et vous allez donc voir, enfin, un truc d'exploitation qui est féministe, qui est pour les femmes, mais où il y a tous les ingrédients des films de prison de femmes qu'on aimait tant des années 70 si on était un cochon. Maintenant, on n'est plus un cochon, on est un féministe comme la scénariste. Et cette série Beach Planet, moi j'attends le 2. Et dans cette collection, il n'y a que des merveilles. Ça vient de deux petites maisons, Image et Avatar, qui ont l'avantage sur DC et Marvel d'aller parfois très loin. Vous avez des zigounettes, vous avez des sexes apparents, vous avez des violences exagérées, vous avez des choses qu'on ne verra pas chez DC et Marvel.
Conrad von Horten et les conseils pour l'été, donc le Fausto. Fausto Fasulo, c'est à vous.
Eh ben, je vais commencer avec un DVD qu'il faut acquérir tout à fait récente. C'est Spetters de Paul Verhoeven, évidemment. Donc j'imagine que vous avez toutes et tous vu Elle, qui est sortie au cinéma récemment. Spetters, c'est l'avant-dernier film de sa période hollandaise, qui n'est pas la période la plus connue. Hein. C'est vrai que Paul Verhoeven est plus connu pour sa période américaine, ses Robocop, Starship Troopers et consorts. Là, Spetters, c'est un film très intéressant. Il faut savoir qu'en fait, en 1980, Paul Verhoeven, il est vraiment au sommet de sa carrière hollandaise. C'est l'homme qui peut quasiment tout faire dans son pays, c'est une star et il sort de succès qui sont vraiment colossaux, hein. Pour information, Turkish Delice, qui est son second long métrage, est le plus grand succès de l'histoire aux Pays-Bas, et avec Spetters, en fait, il décide de pimenter un peu sa carrière, je vais dire. C'est-à-dire qu'il décide de ne pas...
Le Turkish Delice, c'était un moment de sobriété.
Oui, mais Spetters va bien plus loin que Turkish Delice, en fait. Et donc, il sort d'un film historique, un Soldier of Orange, qui a connu un très grand succès, un film avec Rutger Hauer. Et là, avec Spetters, il donne donc dans la chronique sociale. Sauf qu'à l'origine, en fait, le film, quand il est sorti en Hollande, il était vendu comme une espèce de teen comédie, gentiment sexy. Alors peut-être une indication sur le titre Spetters, qui a une double signification, ça veut dire éclaboussure, éclat de boue, pour être plus précis. Ça, c'est une référence directe faite à l'univers du motocross qui est dépeint dans le film, et ça veut aussi dire beau gosse, parce qu'il y a toute une espèce de bande de jeunes mecs qui tournent autour d'une fille, puisque le sujet, c'est celui-ci, c'est trois garçons qui travaillent dans un garage, deux sont passionnés de motocross et le troisième est mécanicien, donc il y en a deux qui veulent absolument être pilote. Il rêve d'être comme la grande star nationale qui est incarnée par Rutger Hauer, qui est un type absolument immonde. Et les cartes vont très vite être distribuées puisqu'il y a une jeune vendeuse de frites qui va installer sa baraque pas très loin de chez eux, dans la banlieue de Rotterdam. Et là, forcément, ça va causer quelques problèmes. Donc, dit comme ça, en fait, on se dit qu'on a affaire à une espèce de chronique douce amère, sauf que le film va évidemment bien plus loin. C'est un vrai film punk, en fait. C'est un film punk, et c'est aussi un succès qui doit à des efforts qui sont collectifs. Et c'est en ça qu'on peut vraiment saluer Paul Verhoeven, c'est que c'est quelqu'un qui fait toujours travailler son équipe au service d'un projet. Et la preuve, c'est que dès que le film commence, il y a deux auteurs, en fait, qui sont mentionnés au générique en premier. Il y a lui, Paul Verhoeven, et son scénariste de la période hollandaise, pardon, qui s'appelle Gerard Zutman, qui est vraiment la personne à qui l'on doit, en fait, la sève provocatrice, si je puis dire, de tous les longs métrages qu'il a fait en Hollande.
Très digne quand même. Je l'ai rencontré au festival de Neuchâtel. C'est quand même quelqu'un qui sait se tenir.
L'un n'empêche pas l'autre, évidemment. Et pour l'anecdote, ils ont usé d'un subterfuge assez cocasse quand ils ont été demandé des subventions, en fait, au ministère de la Culture, j'imagine, ou à quelconque organisation publique. Ils ont présenté le scénario donc dans sa première version. On leur a demandé de faire des retouches. Ils les ont faites, sauf qu'ils n'ont absolument pas tourné le scénario qui a été retouché. Ils ont tourné la première version. Donc, je vous laisse imaginer comment les critiques et les institutions publiques sont tombées sur leur paletot juste après.
Jean-Pierre Dionnet.
Oui, il y a un très joli supplément où Paul Verhoeven parle et où il dit, en gros, parce qu'il a un côté sale gosse quand même, il dit, j'ai fait deux mauvaises actions dans ma vie, c'est Spetters, où j'étais un petit peu trop loin, il dit, et puis Showgirl, il dit, je voulais voir, mais il dit, je me demande si c'est pas ceux-là qui vont rester au bout du compte.
Ouais, et le film anticipe Showgirl, par ailleurs, puisque le personnage de la jeune vendeuse de frites, qui est incarnée par René Soutenjic, c'est clairement le personnage de l'arriviste qui débarque à Las Vegas, qu'on retrouvera donc des années plus tard dans Showgirls.
Showgirl, d'ailleurs,
qu'on retrouvera à la rentrée, dans une copie restaurée, en salle,
monsieur.
À partir du 14 septembre.
Et dont nous parlerons, monsieur.
Qui est un chef-d'œuvre à sa sortie et qui va le devenir, j'espère, pour le plus grand nombre, car montrer la laideur de Las Vegas en faisant une image laide et provocante, c'est une adéquation parfaite du fond et de la forme que les gens n'ont pas compris. C'est un film maudit. Or, c'est un des très, très, très grands films sur l'Amérique, puisque Las Vegas, c'est l'Amérique en tout petit.
Mais nous en reparlerons lors de la sortie en salle.
Absolument, dès le mois de septembre. Absolument. Et signaler que Spetters, c'était le seul film de Verhoeven qui n'était pas disponible en DVD en zone 2. Et il fallait commander le zone 1. Et donc, désormais, nous avons tout Verhoeven.
Compléter votre collecte.
On a toute la collecte de Verhoeven.
On a tout Verhoeven.
Dans une version Director's Cut.
Absolument.
Alors, Spetters, il y a de la moto dans...
Je vois la transition venir, là.
Vous allez voir, c'est d'une habileté.
C'est pas mal, c'est absolument
méphistophélique. Et dans Akira, il y a aussi de la moto.
Il y a de la moto et une grosse moto rouge qui est entrée au panthéon des plus belles motos jamais dessinées dans la bande dessinée.
Alors,
mondiale,
Akira, on a eu combien de versions en français de...
Alors, c'est la troisième, si je ne m'abuse, parce que la première fois que Akira a été édité, c'était sous forme de fascicule. Ils étaient vendus un petit peu moins de 20 francs, je crois. C'était la version colorisée à l'époque. Ensuite, il y a eu des versions reliées de luxe, qui coûtait 99 francs. Hein. Et ensuite, on a eu une version noir et blanc, mais qui n'était pas la version définitive qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une version qui est imprimée sur du meilleur papier, avec une nouvelle traduction, avec les onomatopées respectées. Donc, on a la version définitive d'Akira. Donc, c'est assez intéressant de se dire que jusqu'à présent, tout le monde connaît et tout le monde a lu Akira, mais personne ne l'a lu de cette façon-là, en fait.
Alors, quels sont un peu les suppléments d'âme, enfin les nouveautés donc dans la nouvelle version, parce que
c'est surtout
bien donner des arguments.
Bah, c'est surtout d'avoir d'avoir l'histoire, le manga pensé par Otomo dans sa version la plus proche de la parution japonaise de luxe qui avait été éditée par Kodansha. Donc là, on a clairement Akira tel que Katsuhiro Otomo l'a pensé. Il y a peut-être une chose que je voulais dire, c'est vrai que c'est devenu aujourd'hui une bible, hein, c'est un guide, hein, tout le monde a lu Akira, c'est même un référent pour les storyboarders du monde entier, mais il y a quelque chose qu'on évoque assez peu, c'est les influences cinéma en fait de Katsuhiro Otomo, qui est un gros cinéphile et qui a été très influencé notamment par le nouvel Hollywood. Dans Akira, il y a des morceaux d'Easy Rider, il y a des morceaux de Bonnie and Clyde, il y a tout ça. Donc c'est vrai que je pense que si le manga a connu ce succès-là en Occident, c'est qu'il fait la synthèse en fait entre quelque chose d'extrêmement japonais et aussi quelque chose d'occidental.
Monsieur Jean-Pierre.
Moi, je vais juste raconter la première projection à Paris d'Akira. Otomo a demandé à ce que j'invite absolument Moebius, Mézières et Paul Gillon. Donc, je les ai invités, on a regardé le film, on était tous ensemble. Et à la sortie, moi, je me suis dit, waouh, c'est génial. C'est génial, le film. Mézières a dit, c'est tout ce qu'il y a de pire au monde. C'est du manga. Et Gillon a dit, c'est bien, mais il y a trop de motos, c'est un peu long quand même. Et au bout du compte, ce qui est drôle, c'est que quand Mézières a fait les storyboards, c'était très le style Otomo et autres, mais il n'aime pas ça. Ce qui est vrai, c'est que Moebius avait été une influence majeure sur lui, tout comme Bilal sur Otomo. Mais ce qui est vrai, c'est que beaucoup de Français, au travers d'Akira, de la génération Vivès, etc., ont découvert une manière de découper totalement différente, qui ont provoqué des séries comme Last Man, qui ont provoqué les débuts de Marini, de gens comme ça, parce qu'ils ont vu qu'on pouvait faire une découpe temporelle totalement différente, alors que dans les mangas habituels, qui étaient dans un dessin très japonais, ils ne comprenaient pas tout à fait, ils disaient « c'est japonais ». Otomo est tellement européen par certains aspects dans le graphisme, qu'ils se sont retrouvés et ils se sont mis à faire durer, par exemple, une scène de course de moto, 20 pages. Et tout d'un coup, un hélicoptère atterrit, une double page. Eh bien, lui, il a été changé d'abord par la bande dessinée européenne et il a changé la bande dessinée européenne à son tour. Donc, c'est un juste retour des choses. Et quand il est venu l'an dernier à Angoulême, c'était bien parce qu'il fait plus grand-chose, Otomo. Mais quelque part, ça a été un des premiers cas de réciprocité qu'il y a eu dans la bande dessinée entre le Japon et la France.
Posto.
Bon, non, c'est tout à fait vrai. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, Akira n'est absolument plus l'espèce d'objet exotique en fait qu'il n'était avant. Et de voir une nouvelle génération se l'approprier et le revisiter, je pense que c'est stimulant pour les créateurs qui sont contemporains et aussi pour Otomo qui voit que son héritage perdure.
Je voulais dire juste une chose, c'est que j'avais les droits. Otomo me les avait donnés. Oh, je les ai emmenés à un éditeur qui s'appelait Albin Michel. Et deux personnes qui étaient à la direction d'Albin Michel m'ont dit... Ça ne marchera pas. Et j'avais les droits pour rien. Et on ne l'a pas fait. Et merci aux gens d'Albin Michel qui ont eu du nez ce jour-là.
Ils apprécieront. Monsieur Arnaud Gonzague.
Oui, effectivement, on a vu beaucoup.
C'était vous, Charles Babichel?
Non, j'y étais pas encore. Non, Katsuhiro Otomo, il est venu, effectivement. Il était le président du Festival d'Angoulême cette année. Donc on a tous un peu participé à son interview, il s'est montré un peu, et c'est extraordinaire à quel point il est totalement impénétrable en fait. C'est pour ça qu'on peut se réapproprier Akira absolument comme on veut, parce que c'est une œuvre au fond totalement incompréhensible.
Confirme, on a fait une émission de mauvais genre il y a bien longtemps avec Katsuhiro Otomo, c'est en effet un homme impénétrable. Attends, on continue le rayon nippon avec vous, Sixtine Audebert.
Alors, si vous entendez le générique d'ouverture de la série Log Horizon, qui a été composé par le groupe Man With A Mission, c'est parce qu'il fait le lien entre mes deux sujets du jour. Alors, le premier, la Japan Expo qui se tiendra au parc des expositions du 7 au 10 juillet pour sa 17e édition, où le groupe donnera un concert le samedi 9 juillet. Et un de ses exposants, la maison d'édition Ofelbe, qui est donc spécialisée dans la publication de light novels et qui publie les tomes de light novels de Log Horizon. Et vous vous demandez bien évidemment, mais que sont les light novels?
Eh oui.
Rappelons d'abord en fait que la Japan Expo est une manifestation qui célèbre toute la culture japonaise. C'est l'occasion de redécouvrir les classiques et de découvrir les nouveautés du manga, avec à l'honneur cette année les jeunes émules français. Car rappelons quand même que la France est le deuxième consommateur de manga dans le monde après le Japon. de voir défiler des cosplayers, mais aussi des créations originales japonaises, de déguster des plats exotiques et d'assister à une cérémonie du thé très familiale, de voir des concerts en exclusivité. Bref, la Japan Expo, c'est vraiment l'occasion inratable de parfaire votre connaissance de la culture japonaise et souvent de faire des découvertes singulières. C'est pourquoi je me permets d'attirer votre attention et votre curiosité sur un des épiphénomènes qui est encore peu connu en France de cette culture, les light novels, dont la maison d'édition Ophelb se fait le porte-flambeau. Donc, qu'est-ce que sont les light novels ? Enfin, vous le saurez. À l'origine, ce sont des textes publiés sous la forme de feuilletons dans des magazines pour adolescents, dont ceux qui remportent le plus de succès sont rassemblés pour être édités en roman, voire après par la suite être adaptés en manga, en animé ou en film. Pour ne prendre qu'un seul exemple le plus connu, je pense, la série Sword Art Online, SAO, que vous pouvez également trouver chez Ophelb, pardon. Et donc un premier point, les light novels sont un équivalent japonais de la young adult, c'est-à-dire une littérature sérielle pour un public ciblé, les jeunes adultes 12-25 ans, que nous connaissons, nous, occidentaux, avec Harry Potter ou avec Twilight. Mais au départ, en fait, la spécificité des light novels, comme j'ai souligné, c'est d'être en fait publié dans des magazines pour adolescents. Donc à côté, finalement, de mangas, d'articles sur les animés, les jeux vidéo et toute la culture jeune. La conséquence, je veux vous lire un extrait de l'ouverture de Dan Machi, la légende des Familias, pour preuve. Alors, est-ce une erreur de vouloir rencontrer des filles ? Pardon, je voulais dire de vouloir se constituer un harem dans un donjon. La réponse, oui. C'est ainsi que je me suis retrouvée sur le point de mourir. Je suis en ce moment même poursuivie par un Minotaure. Mes pauvres attaques de niveau 1 n'ont pas le moindre effet sur lui. Voilà, donc très intéressant. Dans ce magnifique extrait, on voit vraiment une circulation en fait dans l'architecte médiatique et dans l'imaginaire médiatique, puisque pour la young adult occidentale, quand on lit Harry Potter par exemple, on a des images qui sont liées à la littérature de genre. Quand on voit Twilight, enfin quand on lit Twilight, on a justement des images qui sont liées au cinéma. Et ici, les référents en fait sont clairement différents. On a des référents qui sont donc le manga, effectivement, avec une mise en scène des filles et de la féminité qui est très proche de celle du manga, et le harem en particulier, qui est un sous-genre d'Echi, et les romans en fait sont illustrés aussi par pas des mangaka, mais par des illustrateurs qui réalisent des dessins proches du manga. Et on a évidemment le jeu vidéo à côté. Donc c'est les trois des romans, donc Sword Art Online, Dan Machi et Log Horizon, se passent dans des univers de fantasy, avec donc des donjons, des monstres, des guildes, et même les représentations, disons, des personnages sur les couvertures sont simulées comme dans des jeux vidéo. Bon, il y a des petits symboles dans les pages, il y a des barres de chargement, etc. Alors, on a promis que le spectre allait s'élargir avec bientôt de la SF. Et voilà, je vous laisse découvrir donc à la Japan Expo le stand de la maison Ophelb.
Ophelb, O-F-E-L-B-E, le young adulte japonais. Japan Expo, monsieur Jean-Pierre, vous y allez tous les ans depuis 20 ans.
J'y vais tous les ans depuis des années. J'irai par exemple cette année parce que je pense qu'il vient pour rencontrer un auteur de light novel qui a écrit un light novel qui a été adapté en Amérique, qui est devenu le film Oblivion, avec Tom Cruise.
Pas terrible, d'ailleurs.
Que j'adore. J'adore. Enfin, des fusées qui ne sont pas rouillées.
Enfin des fusées qui ne sont pas rouillées.
Les fusées rouillées, c'est les années 70, c'est métal hurlant, c'est vieux. On veut des fusées propres et toute simple.
Qu'est-ce que c'est que cet élan de positivité, monsieur Jean-Pierre?
En 2001, elles n'étaient pas rouillées, tout le
monde. Oui, mais non, mais depuis, on n'a eu que des fusées rouillées. Non, non. Japan Expo, c'est une conjonction étonnante. Et je dirais que ce qui m'étonne le plus, c'est de voir le nombre de banlieusards, j'en connais à Livry-Gargan et autres, qui ont absorbé au travers du manga le Japon, qui se sont mis au japonais. C'est pas pour rien que la plupart des mangas ou des livres japonais que je lis, je vois que ce sont des jeunes arabes de banlieue qui se sont mis à apprendre le japonais pour devenir traducteurs. Donc on est... Le Japon a perdu la guerre, mais quelque part, après l'Amérique, il a saisi et attrapé une génération entière qui sont devenus de vrais bons petits japonais. Donc on peut dire qu'en 2015, le Japon, dans mon uchronie réelle, a gagné la guerre. Car parlez à vos enfants, ils sont pas très BD, ils sont plutôt manga, light novel, etc.
Sixtine, une réaction à ce que vient de dire?
Moi, je pense effectivement qu'il y a, disons, une force de la culture japonaise. Hein. On parle de soft power japonais. Mais après, je suis peut-être pas aussi radical que Jean-Pierre, mais effectivement, soft power japonais.
Monsieur Fausto?
Totalement soft power. Et puis, c'est vrai que je trouve ça très, très touchant, en fait, de voir qu'un pays aussi éloigné a pu créer des vocations à travers ses produits culturels. C'est quelque chose de stimulant et de très, très touchant. Ouais.
On rappelle les dates de Japan Expo, Sixtine.
Du 7 au 10 juillet au Parc des Expositions.
Merci pour ces présentations.
Turn of Bazaz has got 100 flunkies working like monkeys, waiting on him to attend his slightest whim. And the Sultan of Bazaz has got American cars, Havana cigars, and minks and pearls for the palace dancing girls. But there's one thing the Sultan of Bazaz has not got, 'cause I've got a pretty little thing about 5 foot tall, a honey lips. Every time she
Ray Ellington, Sultan of Bazaar. Faites-nous rêver, oui, Arnaud Gonzague.
Du rêve de Pacotille. C'est la ville de Pacotille dont je vais vous parler. C'est Hollywood, bien sûr, Hollywood. Avec ce livre Retour à Babylone de Kenneth Anger. Alors, c'est pas le premier tome de Retour à Babylone, c'est le tome 2. Le premier tome a été traduit chez Tristram.
Tome 2 d'Hollywood Babylone.
Exactement. Chez Tristram en 2013. Là, c'est le deuxième tome d'un livre. Alors, vraiment, on peut dire que c'est un livre culte. Hein. S'il y a un mot qui s'applique vraiment à ce livre-là,
cultissime.
C'est un livre cultissime. Je rappelle quelques mots de son histoire, de son épopée, on pourrait presque dire. Kenneth Anger, c'est un vieux monsieur aujourd'hui, réalisateur, et il est tombé dans Hollywood quand il était tout petit, lui. C'est-à-dire qu'il a été enfant acteur, et il avait une grand-mère qui était costumière à Hollywood, et évidemment, quand on traîne dans les couloirs d'Hollywood, on entend tout un tas d'anecdotes un peu cracra, un peu salées, sur ce qui se fait réellement derrière l'industrie du rêve, c'est-à-dire les histoires homosexuelles interdites, les partouzes, les viols, les avortements clandestins, la drogue, la déchéance, etc. Et Kenneth Anger, comme c'est quelqu'un de pas très fréquentable, c'est quelqu'un qui s'est dit qu'après tout, il pourrait tout à fait raconter ça dans un livre. Et il a attendu quelques années, il a attendu d'être à Paris en 1959 pour qu'un certain Jean-Jacques Pauvert lui demande de publier un livre qui s'appelait donc Hollywood Babylone. La première version est sortie en France, en français, à Paris. Mais ça n'est pas encore le Hollywood Babylone qu'on lira ensuite. C'est un livre d'images, un livre de belles images avec des légendes. Il faudra attendre une quinzaine d'années pour que le Hollywood Babylone, le tome 1, sorte aux États-Unis, parce qu'évidemment il était prêt depuis la fin des années 60, mais il y avait des armées d'avocats qui évidemment ne voulaient pas que ces histoires-là, avec les vrais noms d'acteurs et d'actrices de l'époque, soient données. Et donc il faut attendre 1975 pour que Hollywood Babylone sorte. Et Hollywood Babylone, ça, c'est un carton à sa sortie en 75 aux États-Unis, puisqu'il se vend à 2 millions d'exemplaires. Et encore une fois, ce sont les vraies histoires, avec les vrais noms, des vrais acteurs et des vraies actrices qui vivent des choses totalement interdites. Et en fait, ce livre a tellement marché qu'il a créé une mythologie. C'est-à-dire aujourd'hui, la déchéance de Jane Mansfield ou l'homosexualité de Rudolf Valentino.
Alors, à l'affiche de ce tome 2...
Oui, proverbial. Alors, dans ce tome 2, qu'est-ce qu'on découvre? D'autres histoires sur des acteurs et des actrices de cette époque-là. On découvre que James Dean, notamment, aimait faire le cendrier humain dans les cafés gays. Alors, je vous laisse imaginer ce qu'est un cendrier humain. On découvre que Clark Gable a mis dehors Cukor du tournage d'Autant en emporte le vent, non pas parce qu'il ne s'entendait pas pour des questions artistiques, mais parce que Cukor avait des révélations scabreuses sur Clark Gable, que je ne vous en dirai pas plus, vous lirez le livre. On découvre que Lupe Vélez s'est tuée, non pas comme elle le croyait, parce qu'elle s'est suicidée avec des médicaments, elle s'est ratée, mais elle s'est tuée en se relevant, elle était un peu déçue d'avoir raté tout ça, cette mise en scène, mais en se fracassant le menton en glissant. Et il y a d'ailleurs, à la fin du livre, une liste pratiquement exhaustive des suicides thématiques, une liste thématisée des suicides de Hollywood. Pendaison, gaz, etc. Et il y en a un que je trouve particulièrement beau, c'est le suicide d'une certaine Peg Entwistle, actrice, qui s'est jetée du H de Hollywood quand même.
Ça, c'est la grande classe. Merci Arnaud Gonzague, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous redonne nos conseils pour l'été. Cadet Sanger, Retour à Babylone, c'est chez Tristram. En polar, donc, Patrick Delperdange, Si tous les dieux nous abandonnent, en série noire, et Cédric Banel, Bad, c'est en Bête noire, Robert Laffont. En DVD, Panic à Needle Park, chez Carlotta, Spetters, c'est chez qui Spetters,
monsieur? BQHL.
Chez BQHL. Robert Stone, La ligne de fuite, on n'en a pas parlé, mais c'est un classique à connaître absolument. Camille Emmanuel, donc Sex Powerment, la femme, la sexe libère la femme et l'homme. Cette audition Anne Carrière, ma chère Céline. La revue Pop Porn, La Chose. Beach Planet, c'est aux éditions Glénat. Et puis Japan Expo, c'est du 7 au 10 juillet. Glénat qui édite également Akira. Je répète, Japan Expo, c'est du 7 au 10 juillet au Parc des Expos. Et puis ne ratez pas donc les publications de la maison Ofelbe qui sera présente à Japan Expo. Merci à toutes et à tous d'avoir été ce soir à l'écoute du dernier mauvais genre de la saison. On se retrouve au mois de septembre avec un nouveau programme et toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Pierre Mine, Claire-Martin Duguerre, Anne-Catherine Lochard, Céline Duchesnay, Élise Lépine, Sixtine Audebert, Philippe Rouillet, Jean-Pierre Dionnet, Fausto Fazulo et François Angelier vous remercient donc de nous avoir suivis cette année. Donc on se retrouve à la rentrée au mois de septembre. Un dernier mot sur une future diffusion, ma chère Céline.
À partir de lundi prochain, de lundi à vendredi à 8h55 sur France Culture, vous pourrez retrouver Pas si bête, qui est une chronique réalisée par Laurent Polleret, produite par moi-même autour du monde sonore animal.
Voilà qui est dit. Bonnes vacances à tous. Et puis maintenant, Supersonique. Yeah.